Cube Radio.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Mon nom est Sophie Durocher.
Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bon jeudi. Écoutez, je sais pas si vous le sentez dans l'air, non seulement le printemps s'en vient, mais la lumière au bout du tunnel s'en vient. Vraiment, il y a toutes les raisons d'être quand même assez optimiste quand on sait que l'ensemble de la population va commencer à être vaccinée, en fait les gens de plus de 85 ans. Par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est quand je vois des chiffres comme les chiffres suivants. Un sondage de l'Université de Sherbrooke qui nous apprend que la proportion des travailleurs de la santé disposés à se faire vacciner est passée de 57 % en novembre dernier à 76 % ce mois-ci. Je n'ai qu'une seule question à poser. À quoi ils pensent les 24 % de gens qui travaillent dans le domaine de la santé qui ne veulent pas se faire vacciner? Quand j'ai pris connaissance de ce chiffre-là, j'ai poussé un grand « ben voyons donc ».
Sophie Durocher.
Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
Alors, on parle beaucoup ces jours-ci de Trudeau, pas juste Justin, son fils, mais surtout de Pierre Elliott Trudeau. Et pas l'aéroport et les gens qui arrivent et qui doivent se mettre en quarantaine. Non, non, non. On parle de Pierre Elliott Trudeau parce que ces révélations, donc, ont eu l'effet d'une bombe, à l'effet que, en 1976, au moment de l'élection du Parti québécois, que Pierre Elliott Trudeau aurait contacté l'homme d'affaires Paul Desmarais de Power Corp pour lui demander de l'aider dans son plan machiavélique, disons-le, perfide, de mettre le Québec à genoux. On va en parler avec quelqu'un qui est un ancien du Parti québécois, Joseph Facal, qui est maintenant chroniqueur pour notre grand bonheur au Journal de Québec, Journal de Montréal. Joseph, bonjour.
Bonjour Sophie.
Écoute, je regarde la façon dont, par exemple, dans Le Devoir, on parle de cette histoire-là, on parle de machiavélisme, on parle de perfidie, on parle de vilenie. Est-ce que ce sont des mots qui sont trop forts pour décrire le plan de Pierre Elliott Trudeau en 1976?
Non, je ne pense pas que ce soit des mots trop forts, mais en même temps, il y aurait une certaine naïveté de la part de quelqu'un qui tomberait des nues et se prétendrait étonné d'apprendre ce que l'on sait. Non,
voilà.
En fait, il y a une continuité dans la logique de Pierre Elliott Trudeau père. Rappelle-toi, avant même la prise du pouvoir par le PQ, c'est les arrestations arbitraires en 1970, c'est la GRC qui vole les listes de membres du PQ, c'est ce mythe d'un gouvernement parallèle dans l'ombre qui s'apprêterait à prendre le pouvoir et qui donc justifiait la loi des mesures de guerre. Et après, évidemment, la prise du pouvoir par le PQ, Trudeau père a continué avec sa fausse promesse de réforme du fédéralisme en 80, avec le rapatriement forcé en 81, avec le torpillage de Meech en 90. Donc, il y a une continuité qui fait que c'est en même temps choquant et en même temps ô combien pas étonnant.
Oui. Alors, écoute, c'est vrai que c'est tout à fait dans la lignée de la pensée Trudeau, mais je pense que, en effet, il n'y a pas lieu de s'étonner. Par contre, tu vois, je parlais hier avec Robin Philpot qui a écrit le livre Power derrière l'État des Marais, et lui disait simplement, c'est juste une preuve de plus, parce que quand on parle de ce vaste complot, si tu veux, pour mettre le Québec à genoux, on se fait parfois répondre « Oui, mais avez-vous des preuves? » Ben là, c'est pas qu'on doutait de l'existence de cette attitude de la part de Pierre Elliott Trudeau, c'est juste que là, on en a la preuve. Et on peut pas remettre en doute le témoignage de l'ambassadeur des États-Unis au Canada qui a dans une communication avec Washington transcrit cette conversation qu'il aurait eue avec Paul Desmarais. Tu sais, on n'en est plus au stade de dire est-ce que ça a eu lieu ou pas, mais je pense que quelqu'un qui observe la politique ne peut que devenir encore plus cynique face à cette situation-là.
Oui, en fait, Sophie, pour en rajouter une mince couche sur le cynisme, en fait, tout cela nous rappelle qu'il fut un temps où Power Corporation avait des dizaines de milliers d'emplois au Québec. Ils ont tout retiré du Québec. Et oui, évidemment, et pense à ça. Au fond, cet état d'esprit, il a survécu à Pierre-Éliott Trudeau, puisque ses successeurs ensuite, Jean Chrétien, nous ont servi les commandites, son lieutenant Stéphane Dion nous a servi la loi sur la clarté, les menaces de partition. Donc, si tu veux, c'est en quelque sorte dans l'ADN du Parti libéral du Canada, d'où cette espèce de monumentale fumisterie, Sophie, du Parti libéral du Canada, d'essayer de nous faire croire que le Canada serait une sorte de démocratie exemplaire, un phare pour l'humanité qui peut se permettre de faire la leçon au monde entier, alors qu'en fait, ce qu'on oublie, c'est que parmi tous ces travailleurs que Pierre-Éliott Trudeau voulait punir, ben, il y en avait probablement des tas qui avaient voté pour lui. Autrement dit, il voulait punir tout son peuple de ne pas avoir voté comme lui le voulait. Autrement dit, il mettait l'allégeance à ses vues avant sa loyauté à son propre peuple. Mais qui pourrait s'en étonner?
Mm-hmm. Qui pourrait s'en étonner, mais en même temps, j'aime beaucoup le parallèle que tu fais de dire que le Canada peut pas, ou le Parti libéral peut pas se péter les bretelles en disant, regardez, on est des paragons de vertu, on est des phares de la démocratie, alors que, bon, c'est sûr qu'il y a rien d'illégal dans ce que Pierre-Éliott Trudeau aurait, ou en fait a demandé, on peut le dire comme ça, à Paul Desmarais, mais en même temps, c'est vicieux, c'est machiavélique, c'est malsain, c'est profondément révoltant et on peut pas être à la fois quelqu'un qui se dit plus blanc que neige et surtout qui fait la leçon aux autres alors qu'on a soi-même des énormes squelettes dans le placard. C'est cette hypocrisie-là, ce double discours qui est dérangeant.
Absolument. Et en même temps, tu sais, ça me fait réfléchir à quelque chose et je le dis un petit peu en guise d'autocritique. Moi, par exemple, tu vois, je n'ai jamais caché et je continue à assumer le fait que je suis un souverainiste décomplexé. Mais en même temps, je me rappelle, Sophie, que dans la famille souverainiste, il y a toujours eu, et c'est peut-être un héritage de M. Lévesque, une sorte de naïveté. Parmi les souverainistes, beaucoup ont cru au fair play du Canada, ont cru que s'il y avait référendum et qu'on gagnait, la démocratie parlerait, il s'inclinerait. Et M. Parizeau, lui, était beaucoup moins naïf. Et je me rappelle pertinemment, j'étais un tout jeune homme à l'époque, et M. Parizeau, dans des réunions, nous faisait des commentaires sur l'espionnage, la GRC, l'armée. Et nous, on se regardait entre nous, les jeunes, et on se disait, mon Dieu, mais il vit dans un film hollywoodien. Non, pas du tout. Lui avait compris qu'un pays du G7, ça ne se laisse pas démanteler simplement parce que les urnes ont donner un résultat déplaisant et qu'en fait, à Ottawa, on est prêt à tout, tout. Et il y a là une leçon de dur réalisme dont les souverainistes doivent se pénétrer. Et rappelle-toi, des décennies plus tard, au moment du pire du scandale des commandites, le chef de cabinet de Jean Chrétien, Jean Pelletier, avait dit « Quand on est à la guerre comme à la guerre, et on n'a pas peur de se salir les mains, tout est envisageable pour maintenir l'unité canadienne. Et je pense que ceux qui veulent d'un autre régime politique doivent se pénétrer de cette leçon de dur réalisme.
Oui, c'est comme si Ottawa nous avait dit « tous les coups sont permis ». Et c'est sale, parce que ça rappelle, en effet, les pires régimes qui sont prêts à tout pour au nom d'une idéologie qui les aveugle, quitte à tourner les coins ronds sur la noblesse ou la finesse de la méthode. Écoute,
c'est drôle parce que, rappelle-toi, l'an dernier, ou il y a quelques mois, quand certains jeunes militants un peu excités ont commencé à déboulonner des statues de John McDonald et compagnie. Alors, Justin nous a dit qu'il était contre le déboulement des statues, mais qu'il était pour des débats ouverts, francs et transparents sur les épisodes du passé. Et bien hier, quand on lui a demandé une réponse ouverte, franche sur les agissements de son père, ah ben là, il n'y en avait plus que pour la pandémie.
C'est cette... Écoute, je ne sais pas le combien de fois on va pouvoir utiliser des déclinaisons ou des synonymes du mot hypocrisie, parler des deux côtés de la bouche, mauvaise foi. Je veux dire, c'est, on en a ici un exemple quand même patent. Écoute, je veux absolument qu'on parle aussi de la couverture médiatique de ce dossier-là. Parce que, bon, évidemment, quand quand la nouvelle est sortie, c'est CBC, hein, c'est une reporter de CBC, Elizabeth Thompson, qui a sorti cette histoire-là parce qu'elle a eu accès, donc, à des documents secrets qui ont été déclassifiés. Et donc, c'est assez intéressant de voir après, par la suite, la couverture médiatique. Bon, parce que ça implique Paul Desmarais, qui, à l'époque, était donc... propriétaire de la presse, c'est assez intéressant de voir qu'hier, silence radio. Il n'y a pas eu un seul texte, une seule chronique dans le journal La Presse là-dessus. Et aujourd'hui, il y a deux choses. Il y a un texte de La Presse canadienne, auquel qui est un média de mise en commun, si tu veux, auquel La Presse est abonnée. Et il y a eu un éditorial, enfin une chronique de Yves Boisvert. Et Yves Boisvert dit, bon... Il n'y a rien là, c'est pas si grave que ça, puis il faut pas... Et moi, j'ai été estomaqué de cette chronique de Yves Boisvert.
Écoute, Sophie, M. Boisvert est un homme intelligent, subtil, que je lis avec plaisir, même si je suis très souvent en désaccord. Donc, d'une certaine façon, il était, pour la maison, le meilleur choix pour être celui qu'on envoie en mission. Maintenant, si tu m'avais demandé de prédire... Qu'est-ce qu'il allait dire? Ben, c'était évident que ça allait ressembler à ça. C'est-à-dire une admission, parce que c'est évidemment impossible à nier, mais en même temps, une minimisation autour du thème « il y a pensé, mais il n'y a pas donné suite ». D'abord, le simple fait qu'il ait pensé à punir tout son peuple parce qu'il ne votait pas comme lui était déjà assez choquant. Il est vrai par ailleurs, et M. Boisvert le rappelle, que en 76, quand le PQ prend le pouvoir, Ottawa est déstabilisé, surpris, n'a pas vu venir le coup, le cabinet est divisé, mais fondamentalement, et là-dessus je te rejoins, pour la presse, en matière d'unité nationale, rien n'est jamais assez sérieux. Et il y a toujours des circonstances atténuantes. « Ah, ben vous savez, c'était pas vraiment ça, puis lisez attentivement, puis ils ont peut-être pensé, mais ils l'ont pas fait. » Tu sais, Sophie, jamais pour un instant, je n'ai cru que la transformation du journal en OSBL changerait fondamentalement son orientation idéologique et politique. Le temps m'a guéri d'une certaine naïveté, dont celle-là. Je suis pas du tout étonné.
Mais quand même, ce qui est surprenant, justement, c'est que on aurait pu penser que du fait que ce journal-là avait appartenu à quelqu'un qui était très, très, très clairement plus que fédéraliste, c'est quelqu'un qui avait vraiment une horreur, une sainte horreur du mouvement souverainiste. Puis c'est très facile de retrouver différentes déclarations de Paul Desmarais, père, qui crache son mépris et son vomi, là, vraiment, de la cause indépendantiste. Mais on aurait pu penser que du jour où le journal n'était plus justement redevable à ce propriétaire, du jour où ça devenait une entreprise indépendante, libre, qu'on aurait pu qui disent bon ben là faisons place à la diversité d'opinion et au contraire au sein de notre équipe éditoriale on va accueillir tous les points de vue. Or, c'est pas ça qui est arrivé. Stéphanie Gramont, qui vient d'être nommée éditorialiste en chef, son premier éditorial, elle réaffirme que les valeurs de la presse, c'est de défendre le fédéralisme. Je veux dire, ils essayent de nous faire croire que Stéphanie Gramont, elle se lève le matin puis elle a une photo de l'unifolié sur sur son mur.
Écoute, je ne suis pas capable de pénétrer dans le cerveau de Madame Gramont ou de quiconque d'autre au sein de la presse, mais si certains ont cru à un moment donné à un changement d'orientation, moi, qu'on me pardonne mon cynisme, je n'y ai jamais vraiment cru. Par ailleurs, il faudrait voir également quels étaient au juste les dessous de cette opération que je n'ai pas vraiment jamais fouillé. On se rappellera que pendant des années, souviens-toi, Yves Michaud se présentait à l'Assemblée des actionnaires de la presse et il s'étonnait, n'est-ce pas, que Power Corporation est à peu près retiré du Québec tout, sauf un journal déficitaire. Et pendant des années, M. Michaud a demandé à voir évidemment les états financiers en posant une question toute simple, n'est-ce pas? Pourquoi un empire qui veut toujours gagner accepte de garder au Québec uniquement une seule entité et déficitaire? Est-ce que ce n'est pas pour des motivations bien davantage de politique que d'économique? Alors évidemment, on peut poser la question, on peut fabriquer nous-mêmes toutes les réponses et tu devines évidemment les miennes, mais moi je suis pas du tout étonné de ce qu'on peut continuer à y lire. Bon, ouais. je reconnais qu'il y a eu un certain rajeunissement, je reconnais qu'il y a une plus grande diversité, par exemple, dans tout ce qui est lettre des lecteurs, n'est-ce pas? Mais pour ce qui est des prises de position de la direction, ben, elles sont conformes à ce qu'on pourrait appeler la ligne historique de ce journal.
Ouais, mais t'as tout à fait raison de rappeler la bataille de d'Yves Michaud qui était donc actionnaire lui aussi de Power et donc par le fait même de GESCA et qui a pris cette question-là d'un angle financier, c'est-à-dire en tant qu'actionnaire, comment se fait-il que vous ne divulguez pas les résultats financiers de votre filiale qui est propriétaire de la presse, et t'as tout à fait raison de le rappeler. C'est tout à ton honneur, Joseph, de revenir sur cette histoire-là. Écoute,
Et comme si ce n'était pas assez, Pierre-Éliott Trudeau, en plus, on a donné son nom à l'aéroport. Alors, en plus, oui. Nous, on aime se rajouter une couche de masochisme par-dessus, comprends-tu?
Mais ça, c'est un très bon point que tu soulèves, et c'est le Parti pour l'indépendance du Québec qui a envoyé un communiqué dans lequel il disait comment se fait-il qu'on accepte encore que l'aéroport porte le nom de cet homme-là, qui manifestement n'avait pas les intérêts des Québécois, de tous les Québécois à cœur, et il suggérait qu'on renomme l'aéroport plutôt Jacques Parizeau.
Bon, c'est ce que notre collègue Antoine Robitaille rappelle également, n'est-ce pas?
Oui.
Il y a là une gifle. Ça, c'est vraiment rajouter l'injure à l'insulte.
Oui, tout à fait. Donc, de toute façon, la seule consolation qu'on a en ce moment, c'est qu'on n'est pas prêt de se retrouver à l'aéroport parce qu'on peut pas voyager. Puis au rythme où va la vaccination et toutes les bévues que le fils de l'autre a accumulées. Écoute, il y avait un texte dans le National Post ou Globe and Mail qui disait que à cause des bévues justement d'Ottawa, on a 6 mois de retard sur la vaccination. Donc, on va se retrouver 6 mois plus tard à se faire vacciner par rapport à d'autres pays économiquement comparables. Donc, à cause des erreurs du fils, ça va prendre 6 mois de plus avant qu'on puisse aller à l'aéroport qui porte le nom du père. Écoute, merci beaucoup, Joseph. Merci. Et puis, on se retrouve, évidemment, je te souhaite une belle fin de semaine. Puis, on se retrouve mardi. Merci beaucoup, Joseph.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
We'll be right back.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Il y a des signaux assez contradictoires qui nous parviennent des États-Unis. Écoutez, j'ai lu une histoire dans la ville de Philadelphie, des résidents, des gens qui ont le VIH, qui n'ont pas pu recevoir le vaccin de la COVID-19. Dans d'autres endroits aux États-Unis, par exemple à New York, au contraire, le fait d'avoir le VIH fait en sorte que vous êtes considéré comme quelqu'un qui a une condition préexistante et à ce moment-là, vous pouvez vous faire vacciner avant le reste de la population. Donc, j'étais curieuse, en lisant ces informations assez contradictoires, de voir quelle était la situation ici au Québec, au Canada, comment vont pouvoir se faire vacciner les gens qui sont porteurs du VIH. Et je me suis dit, la meilleure personne, évidemment, pour en parler, c'est mon petit docteur préféré, mon chouchou, docteur Régent Thomas, qui est directeur de la clinique L'Actuelle à Montréal. Pas juste parce que c'est mon chouchou, mais aussi parce que, bien sûr, c'est une clientèle qu'il connaît bien à cause de son rôle à la clinique. Docteur Thomas, bonjour. Régent, comment vas-tu?
Bonjour. Ça va bien, occupé. On est très occupé.
Oui, très occupé.
On fait du présentiel, on fait la majorité de nos patients, on les voit. Donc, peu de téléphone et très occupé. Parce que beaucoup de gens ont de la difficulté à rejoindre leur médecin. Et les ITS continuent. C'est comme l'amour au temps du choléra. Alors, ça continue, même si nos patients nous disent qu'ils ont moins de partenaires. Mais en fait, ce dont on s'occupe beaucoup chez nos patients, même si on est une clinique ITS qui peut vous paraître bizarre, c'est que nos patients ont beaucoup et de plus en plus de problèmes de santé mentale. Alors, ils sont bien contents de pouvoir rencontrer un médecin en face. On a une anxiété au plafond, antidépresseurs, très peu de ressources sociales, même si on entend tous les jours qu'il y a des budgets pour les ressources sociales, des tentatives de suicide. Les patients vont vraiment pas bien psychologiquement, là, de façon générale, VIH ou non-VIH. Les patients vont pas bien. Beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi. Imaginez si vous travaillez dans l'aviation puis que vous écoutez les nouvelles, on vous dit que ça va être correct en 2024. C'est des gens qui étaient agents de bord depuis 25 ans, toute leur carrière était là-dedans. C'est des stress, un sentiment de ne pas voir le futur et d'être très isolé en plus.
Et on sait à quel point, pour l'être humain, c'est important d'être capable de se projeter dans le temps. C'est-à-dire de se dire, bon, la situation que je vis en ce moment est peut-être excessivement difficile, mais il y a, à court terme ou à moyen terme, une lumière au bout du tunnel. Si on ne voit pas cette lumière, c'est à ce moment-là, en effet, qu'on perd un peu les pédales.
Absolument. C'est là où ça devient le plus dangereux pour les dangers de suicide. Il y a aussi... je veux dire, à l'avenir, à prévoir, il va y avoir beaucoup de faillites. Donc, des gens d'affaires qui vont être à très haut risque de complications psychologiques. Et le support, moi, je sais pas, j'écoute les nouvelles, puis on me dit qu'il y a du support, puis dans la réalité... J'ai un patient, Sophie, j'ai toujours une histoire à te raconter.
Oui,
mais c'est
toujours.
Ça, d'être sur le terrain. J'ai un patient de 25 ans, qui a fait une tentative de suicide. Il a été hospitalisé à Montréal le lundi soir. Le mardi, le psychiatre l'a libéré. Aucun suivi. Oui. Et ça, c'est ces histoires-là, on les entend là, sur les réseaux sociaux. Aucun suivi. Il lui a dit, essaye de te trouver un psychologue.
Mais voyons.
Essaye, bien, bonne chance. Hein? Alors, il y a tout ça, et ça ne fait qu'augmenter. Et je sais pas, moi, hier j'ai vu qu'il allait avoir des escouades, là, je sais pas trop c'est quoi. Mais c'est clair qu'il faudrait. Parce que ça va durer. La COVID, OK, on va être vacciné, mais je veux dire, tous les effets, les gens qui ont eu des problèmes financiers, des problèmes qui sont passés de l'anxiété à la dépression, je veux dire, ça s'en ira pas du jour au lendemain quand le monde sera tout vacciné contre la COVID. Alors, il faudrait vraiment qu'il y ait un plan de santé mentale très important parce que ça reste extrêmement difficile. Et c'est notre travail de tous les jours. Les médecins viennent me voir et puis me demandent, est-ce que tu vois plus de dépression qu'avant? Oui, on voit plus. Et des niveaux d'anxiété très élevés. Donc, c'est... Et d'où l'importance de très content d'être ouvert, les gens apprécient.
Voilà, c'est ça. Et d'où l'importance d'être là en personne, hein, parce que je déteste le mot présentiel. Donc, disons simplement en personne, en chair et en os, en face à face, même s'il y a le masque.
C'est pas pareil,
parce que tu pourrais pas avoir le même effet sur tes patients si tu les voyais à travers un écran d'ordinateur.
Ben, moi, je trouve ça personnellement. Et les patients nous le disent aussi. Les patients nous le disent. Ils apprécient beaucoup. Et nous, on a, dès le début de la pandémie, on avait prévu ça. Alors, on a engagé une équipe psychosociale, mais c'est nous, avec notre argent, avec nos finances, on est allé chercher du financement privé. Et on a 3 personnes. On rappelle tous les patients VIH pour voir comment ils vont en ce temps de pandémie, particulièrement les personnes plus âgées. Et on est débordés. Mais c'était quelque chose qu'on avait pensé. Dès le début, on a dit nos patients iront pas bien. Et déjà d'être VIH, déjà d'être stigmatisé, déjà d'être isolé, souvent ces gens-là n'ont plus contact avec leur famille. Et on parle beaucoup de la famille, des familles et des personnes seules vieillissantes, mais il y a aussi des personnes seuls aussi plus jeunes qui ont besoin de contact et qui n'en ont plus du tout. Alors, c'est tous des cofacteurs reliés à ce qu'on voit en clinique.
Écoute, ce que tu me décris, c'est d'une tristesse inouïe.
Non, c'est triste, triste, triste. Puis, comme je te dis, on fait... Les gens viennent au 100 rendez-vous pour... Je sais pas, il arrive, c'est un patient qui prend la PrEP ou une thérapie, puis tu dis comment ça va, puis ou qui vient pour une ITS, et là, comment ça va, et il part à pleurer. Non, ça va pas du tout. Comme on voit chez les ados aussi, on voit beaucoup ça chez les ados en milieu scolaire, là, cette détresse. Et la détresse que, il y a des gens qui vont la retrouver, leur emploi, mais, quand t'es affecté psychologiquement, c'est des conséquences qui peuvent être à très long terme. Et on a des populations vulnérables, on a des gens qui sont des itinérants, qui ont des complications, des conséquences encore plus élevées, mais beaucoup d'isolement, beaucoup de solitude. C'est ce qui... Et on la voit pas tant que ça, la lumière. Hein. À chaque fois qu'il y a une bonne nouvelle, on a un vaccin, c'est fantastique, un espoir. En 1 mois, on a découvert un vaccin de sida, ça fait 40 ans, il n'y a toujours pas de vaccin. Donc, c'est une bonne nouvelle, mais là, il y a toujours... c'est un peu... Les médias sont un peu comme ça aussi. Ah, le variant, est-ce que le vaccin va marcher contre le variant? Il y a toujours quelque chose, moi, je dis à mes patients, des fois, d'arrêter d'écouter des nouvelles, là aussi.
Parce que c'est pas bon pour mon business à moi, là. c'est pas bon pour le journal ni pour la radio, là.
Les gens qui ont des problèmes de santé mentale.
Oui. Je comprends.
Ça peut être trop loin. Les personnes âgées aussi, qui écoutent beaucoup les nouvelles. Et en plus, les nouvelles sont quand même contradictoires. Parlons de la santé publique. Oui. Parce que là, t'écoutes la santé publique au Québec. T'écoutes la santé publique au Canada, t'écoutes la santé publique en France, au Royaume-Uni. Tu sais, la santé publique, c'est pas une science exacte.
C'est ce qu'on découvre.
Moi, j'ai toujours su, là, parce que ça fait 40 ans que je travaille avec eux dans les ITS. C'est loin d'être une science exacte. Puis, il faut pas seulement consulter la santé publique. Il faut consulter, moi, j'aurais aimé ça, qu'il y ait dans un comité dès le départ, qu'il y ait des psychiatres, qu'il y ait des pédiatres, qu'il y ait des éthiciens, être tous confrontés. Hein? La santé publique, c'est on voit juste le virus. Mais tout le reste, là, et ça, on a appris ça avec le sida. Si on voulait lutter contre le sida, il fallait lutter contre l'homophobie. Il fallait faire de la réduction des méfaits sur les toxicomanes. C'était pas juste un virus, là. C'est un virus qui était avec l'être humain.
Ah, mais ça, c'est intéressant. Donc, t'es en train de dire qu'on est en train de refaire avec le coronavirus exactement les mêmes erreurs qu'on a faites quand le VIH est arrivé.
Oui, un peu. Puis c'est pas un reproche, parce que des pandémies arrivent, puis c'est rapide, puis tout le monde, mais je regarde qu'il y a des endroits où... que seule la santé publique soit consultée, probablement que les gens du gouvernement vont nous dire non, mais moi, j'ai pas vu un comité où un anthropologue, un philosophe. Ces gens-là ont des choses à dire aussi. Tout ce qu'on voit, c'est des infectiologues qui nous parlent de virus. À un moment donné, ils ont tous dit tout ce qu'il y avait à dire, mais d'avoir, tu sais, je sais pas, je trouve qu'on n'a pas beaucoup entendu les psychiatres, par exemple.
Tout à fait.
Les pédiatres, ils ont parlé d'eux-mêmes, mais on n'avait pas l'impression qu'ils étaient très consultés non plus. Puis l'impact sur les enfants à long terme. Et là, j'ai complètement changé de sujet, ma Sophie.
C'est pas grave. Mon beau Régent, c'est tellement pas grave. Non, mais c'est parce que, écoute, chaque fois qu'on se parle, c'est toujours passionnant. Donc, écoute, on va retomber sur nos pattes, puis on va retourner au sujet dont je voulais te parler. Mais moi, j'adore. On n'est pas obligé d'être tout le temps sur l'autoroute. Hein. Des fois, les petits chemins de traverse, c'est là que se situe la vérité. Puis toi,
d'être sur le terrain.
Voilà. Alors, exactement.
Il y a une chose qu'on a appris avec la COVID. C'est comment notre système de santé était hiérarchisé. Moi, je le savais, je le vis de tous les jours. Et comment ce qui se passe à Québec, au ministère, et ce qui se passe sur le terrain, c'est deux choses. Et comment c'est difficile. Personne ne veut faire de réforme, mais moi, j'ai l'impression qu'il devrait avoir une réforme parce que ça n'a aucun sens. C'était éparpillé un peu tout ça. Et particulièrement au début, là, OK, on a un vaccin. T'imagines si on n'avait pas de vaccin?
Oui. Ce serait terrible. Hein?
Où est-ce qu'on serait rendu?
Oui. Ben non, mais terrible. Aux États-Unis, 500 000 morts. Écoute, s'il n'y avait pas ce vaccin-là, on serait rendu à combien? Et si on n'avait pas pris toutes les mesures, ce serait en effet terrorisant. Écoute, retournons quand même.
Oui,
mais je trouve ça très, très bien ce qu'on a fait, ce pas de côté qu'on a pris ensemble. Donc, d'après toi, comment ça va se passer? C'est-à-dire que, est-ce que ta clientèle de gens atteints du VIH, est-ce qu'ils vont passer en priorité parce qu'ils ont une condition? Non?
Non, ils ne passent pas en priorité. J'ai eu des discussions avec des experts. D'abord, il y a c'est très intéressant, hein, ta question d'aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas eu de débat. Il n'y a pas eu de débat, on n'a pas été consultés. Et ce qu'ils ont dit d'emblée, il semble que le VIH ne ressort pas. C'est ce que j'ai entendu, moi, des experts à la télévision.
Non, qu'est-ce que tu veux dire, ne ressort pas de quelle façon?
Dans les complications, ce qui sort, c'est l'âge, d'accord, l'obésité, puis le diabète. Mais le VIH ne ressort pas. Bon, donc, OK, donc on a pris, et le Center for Disease Control, donc, des États-Unis, a pris le même... décision, et ils ont décidé de ne pas vacciner les personnes VIH. Alors, c'est intéressant, ton gars de Philadelphie.
Ben oui.
Ça va parce que cette question-là, là, on me la pose tous les jours, là. Sophie.
Ben, j'imagine, ta clientèle doit être inquiète.
Ben oui, la clientèle est inquiète. Donc, cette question-là, on me la pose tous les jours. Alors, lui, elle. Bon, c'est les personnes de 75 ans et plus. Et ça fait toute une histoire. Et finalement, entre les deux filles, ils ont changé leur ligne directrice.
Voilà.
Ils ont pu... Ouais. Alors, ce qu'ils... Il y a une étude qui vient de sortir très, très récente. D'abord, il y avait très peu d'études. Donc, ça s'est fait sur... Je sais pas comment, mais il y avait très peu d'études. Là, il y a une étude extrêmement intéressante qui est sorti, je crois que c'est cette semaine, à New York, c'est 2988 patients VIH.
Okay.
Et ce qu'ils ont réussi à démontrer, parce qu'il faut bien comprendre, le chef de la santé publique de Philadelphie, il a dit, les patients VIH sont sous traitement, ils ont un très bon système immunitaire et tout va bien. Avec la trithérapie d'aujourd'hui, c'est plus ce que c'était. D'abord, c'est faux. Il y a un pourcentage de patients. J'ai sorti les chiffres. Avec, pour avoir un bon système immunitaire, pour avoir des T4, des CD4, là, ça, c'est les globules blancs qui nous protègent en haut de 500.
Oui.
Or, on en a 25 % même s'ils sont indétectables, parfois même plus longtemps, on a 25 % qui sont en bas de 500. Donc, je crois qu'on aurait pu prioriser les patients VIH avec des critères. Peut-être pas tout le monde, peut-être pas un gars de 20 ans qui a 1000 CD4. Et ce que cette étude-là démontre, elle démontre en fait, c'est un nombre important, c'est une des études les plus importantes, que les patients VIH ont plus de complications. Pas nécessairement plus de mortalité, ah. Ils ont plus de complications. Ouais, ils ont plus de complications,
plus
ils
de
sont
complications.
Hospitalisés plus souvent. Ouais, plus de complications sévères. Donc, peut-être que cette étude-là va faire bouger mm-hmm. les choses, mais en tout cas, pour le moment, au Québec. Bon, après ça, on dit, et notre patientèle, oui, c'est un mot que j'aime pas non plus, nos patients vieillissent aussi. À l'actuel, oui. On a 50% de nos patients qui ont VIH qui ont en haut de 55 ans. Donc à 55 ans, et ils ont plus de comorbidité que la population normale, c'est-à-dire ils font plus d'hypertension, ils font plus de diabète, ils font plus de maladies chroniques, de problèmes rénaux, etc. Mais comment ils vont? Je ne sais pas, parce qu'on dit que les personnes vulnérables avec des comorbidités vont être appelées. Je ne sais pas comment on va savoir que mon patient du coin, il fait de l'hypertension,
voilà.
Du diabète. Je ne sais pas, je voyais en France hier, les médecins de famille commencent à vacciner dans les cliniques. Et ça, je trouve ça intéressant.
Bon, alors ça m'amène à ma prochaine question, Régent. Ça veut dire que toi, ce que tu souhaiterais, ce serait que, par exemple, qu'on te donne un certain nombre de doses de vaccins, parce que toi, à la clinique, vous pourriez faire de la vaccination.
Oui. Et on a une clientèle très, très lourde. On pourrait faire des vaccinations certainement, comme on fait pour la grippe chaque année. Là, on dit que avec Pfizer, le frigidaire, c'est plus compliqué. Ben, nous, imagine-toi qu'on a un frigidaire à moins 80 degrés à la clinique.
Non.
Oui.
Pourquoi?
Un Dalton zone. Oui. Dans les années 90, parce qu'on en avait besoin quand le test de charge virale est arrivé. Donc, en plus, on a ce frigo-là.
Attends. Wow, tu viens de me dire quelque chose, Régent. On va pas laisser passer ça comme ça. Elton John, spécifiquement, a dit « Hey, Régent Thomas, je t'aime blabinette dans les années... » Non. Alors, explique-nous comment ça s'est passé.
Ben, on avait des contacts. J'avais un ami médecin qui était très, très ami avec Elton John. Et il y avait la fondation à l'époque qui est arrivé le test de charge virale qui nécessitait un frigidaire, c'était très cher. Je pense qu'à l'époque, c'était 75 ou 100 000 $. Et ils nous ont fait un don.
Incroyable.
De ce frigidaire-là. Oui, l'histoire. Il y a tellement d'histoires dans tout ça.
Donc incroyable.
On pourrait
entreposer les vaccins.
Nos patients. Oui, puis on pourrait vacciner nos patients facilement.
Incroyable. Bon, ben écoute, je suis vraiment contente qu'on se soit parlé aujourd'hui, parce que tu nous apprends énormément de choses, mais je pense qu'en effet, à la lumière de cette étude dont tu parles, qui tend à démontrer que les gens atteints du VIH ont justement cette vulnérabilité et ont plus de complications, ça devrait en effet en faire une priorité, une clientèle qu'on doit prioriser pour la vaccination. Écoute, Régent, bon courage à travers tout ça. Je sais que t'es tellement plein d'humanité que je sais que ça te désole de voir l'état de détresse de tes patients. Alors écoute, bon courage. Bon courage à toi et à tes patients.
Merci.
Docteur Régent Thomas, donc, qui est directeur de la clinique L'Actuelle à Montréal, qui nous parlait de cette clientèle vulnérable, donc des gens atteints de VIH.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Cube Radio.
Je vous apprends rien si je vous dis que depuis plusieurs mois, si c'est pas depuis plusieurs années, il y a un engouement pour les histoires criminelles, mais les vraies histoires criminelles, pas celles qui sont inventées par Agatha Christie ou les autres auteurs de ce monde. C'est ce qu'on appelle en chinois le true crime. Donc cette expression anglaise true crime. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'il y a une Québécoise, elle s'appelle Victoria Charlton. Elle est autrice et youtubeuse et elle est vraiment parmi les auteurs ou parmi les personnes spécialistes de True Crime qui connaît vraiment un engouement énorme, vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui la suivent. Elle publie ces jours-ci un nouveau livre, ça s'intitule « Gardez l'œil ouvert » et ça fait suite à un gros succès, son premier livre qui avait été lancé en 2019. Ben justement, elle est au bout de la ligne. Victoria, bonjour.
Bonjour, bonjour, ça va bien?
Ben écoutez, moi ça va très bien. Moi je suis fascinée par ce phénomène-là du true crime. Vous, vous expliquez ça comment, Victoria, que les gens soient si assoiffés de ces vraies histoires criminelles qui, dans certains cas, n'ont pas été résolues? Comment ça se fait que ça nous fascine autant?
C'est une très bonne question, puis on me le demande souvent, puis je sais comme pas comment y répondre, mais en fait, je pense que ça a toujours existé, parce que moi, je me rappelle, j'ai grandi avec Canal D, là, genre un sort oui. proche et ses émissions, et même en France, on me disait, les journalistes me disaient, ah, les Français, nous, on adore ces émissions, on adore ces histoires, et j'ai réalisé qu'au Québec aussi, on aimait bien ce type d'histoire, et aux États-Unis aussi, donc je crois que ça fascine tout le monde. Et je crois que maintenant, on peut se l'avouer là, qu'on aime ça parce que Netflix sort des nouveaux documentaires à chaque semaine, là, presque. Ouais.
Mais en même temps, c'est qu'il y a un côté de nous, j'imagine, qui est très intrigué. Parce que bon, quand il y a... c'est en fait, tous les éléments sont réunis parce qu'il y a un côté de mystère. En même temps, il y a un côté de drame humain. Et puis, quand on... Parce que bon, moi, je suis journaliste, donc j'ai beaucoup de respect, par exemple, pour mes collègues qui font du journalisme d'enquête. Mais quand on est face à un puzzle, un casse-tête, puis qu'il y a des morceaux qui manquent, il y a un côté de nous comme être humain qui est fasciné aussi par ça, là, des questions pas résolues. C'est ça qui vous fascine, vous aussi?
Oui, ben moi, c'est vraiment ça. Parce que c'est sûr que, bon, il y a toujours dans le true crime, il y a l'aspect tueur en série, ben, le côté tueur en série, il y a les disparitions, il y a les meurtres irrésolus, il y a même des vidéos de true crime qui vont toucher aux histoires d'extraterrestres. Moi, c'est vraiment ça, c'est les cas irrésolus, les énigmes, les disparitions. Moi, c'était un peu le côté... au début, je vous mentirais pas que c'était... Je pense que c'était une curiosité morbide, comme un peu n'importe
ah, oui?
qui m'intéressait. Ouais. Et là, de plus en plus, j'ai réalisé que j'aidais carrément les familles. Là, c'est rendu qu'il y a des familles qui m'approchent pour que je parle de leur histoire sur ma chaîne. Et là, c'est un peu cette envie d'aider et de carrément résoudre des enquêtes. J'en ai jamais résolu encore, mais là, c'est ça qui me motive à parler de ces histoires-là.
Alors, ouais. Quand on parle de votre succès, bon, les chiffres que j'ai devant les yeux donnent un petit peu le vertige. 500 000 abonnés à votre chaîne YouTube. Votre sur Instagram, on parle de 110 000 personnes. Votre livre, le premier livre lancé en 2019, vous en avez vendu combien d'exemplaires à travers la planète?
Ben, aux dernières nouvelles, c'était 30 000 livres.
Bah. Oui. Bon, ben, on sait que quand on sait qu'un succès de librairie, c'est 5 000, donc vous avez 6 fois un succès oui. de librairie. Donc, parlez-nous de ce nouveau livre, Gardez l'œil ouvert. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce livre-là?
Oui, ça va être un peu semblable au premier. Mon premier, c'était 15 histoires de disparition. Là, ça va être 15 affaires criminelles non résolues. Et bon, je vais parler des cas irrésolus, des meurtres, des corps retrouvés sans identité et des disparitions. Et dans mon deuxième tome, là, j'ai fait affaire avec 4 familles. J'ai été en contact avec 4 familles pour donner de la visibilité à ces histoires-là. Donc, c'est vraiment, je vais parler de des cas assez anciens, pardon, et des cas plus récents. Dans des pays différents aussi, j'ai une histoire de l'Italie, une histoire de la France, oui. Québec, du Japon, donc voilà.
Parce que ces familles-là sont absolument désespérées, évidemment, que ces disparitions ou ces meurtres-là n'aient pas été résolus. Donc vous, de quelle façon vous pouvez les aider? C'est-à-dire que vous ne travaillez pas pour la police, vous êtes une jeune auteure québécoise. Donc en quoi vous, votre travail de recherche ou d'investigation, en quoi ça peut les aider? Vous intervenez oui, où dans le processus?
Excellente question, parce que c'est sûr que tout le monde me dit, mais t'es pas criminologue, toi t'es pas un journaliste, qu'est-ce que tu fais? Ben moi, je pense que c'est là que ma formation, bon, moi, j'ai un bac et une maîtrise en littérature, là. C'est ma formation de savoir raconter des histoires qui peut aider. Je vais prendre n'importe quelle histoire un peu banale. Non, c'est difficile de dire ça parce que c'est quand même des histoires de disparition. Mais je vais prendre une histoire de disparition ou de meurtre, puis je vais essayer de la rendre intéressante. Puis là, on s'entend qu'on parle d'une tragédie, puis ça, je le garde toujours en tête. Mm-hmm. Mais c'est en créant des buzz, je parle créer un buzz autour d'une histoire de disparition que les gens vont s'y intéresser. Et ça, c'est super important parce que faut créer des phénomènes médiatiques autour de des histoires de disparition.
Voilà.
Par exemple, au Québec, Cédrica Provencher, même si ça reste irrésolu, elle a eu de la chance que son histoire soit autant médiatisée, mais c'est très rare que des familles ont cette chance-là. Donc, voilà. C'est ce que j'essaie de faire en racontant des histoires, parce que chaque histoire de disparition, on peut créer un narratif autour de cette histoire-là. Fait que je pense que c'est ce que je fais. Je mets des photos, je mets des vidéos d'archives autour de ces histoires-là, justement, de disparition. Puis, ben c'est ça. Je pense que c'est là que c'est mon côté, moi, un peu que de narratrice, qui va donner justement de l'importance à ces histoires-là, puis c'est ce que je fais pour aider, voilà.
Oui, mais ce qui est intéressant aussi, en fait, c'est votre collègue, la personne qui s'occupe de votre promotion, qui nous a envoyé cette information-là. Donc, je vais partager avec les auditeurs. Là, on va le lire en même temps. Donc, nous avons eu une bonne nouvelle cette semaine suite à une entrevue pour son podcast. Victoria a aidé une abonnée à rouvrir le dossier pour trouver le coupable dans une affaire d'homicide. Comme quoi, en plus de nous intriguer, de nous distraire, le true crime fait œuvre utile. Comment ça s'est passé cette histoire-là?
Oui, ben en fait, c'est une abonnée à moi qui m'a contactée et m'a dit moi, mon père s'est fait assassiner quand j'avais 11 ans. Puis mon abonné a 30 ans aujourd'hui. Il m'a dit ouais, mon père s'est fait assassiner quand j'avais 11 ans et c'est toujours irrésolu. J'aimerais que tu en parles sur ta chaîne. Et moi, je l'ai invité à carrément venir en parler avec moi, oui. Là, sous forme d'entrevue, ouais, comme un podcast. Et on en a parlé pendant une heure. Et suite à ça, il y a des gens qui l'ont contacté, elle, des hommes qui connaissaient son père, puis ont dit « Ben, nous, on sait c'est qui a tué ton père. » Ouais. Là, je peux pas trop entrer dans les détails parce que même moi, elle m'en a pas trop dit parce que, bon, ça reste confidentiel, mais apparemment que la SQ va rouvrir l'enquête puis qu'ils ont assez d'informations là, pour rouvrir l'enquête. Donc, c'est assez fou, là. Même moi, j'étais sous le choc. Elle aussi, puis elle dit « C'est fou, c'est grâce à toi là, que je vais peut-être pouvoir résoudre le mur de mon père. » Ouais.
Mais ça, c'est incroyable parce que des histoires comme cette dame-là, est-ce que vous pouvez donner son prénom?
Oui, elle s'appelle Marie-Ève.
Bon, l'histoire de Marie-Ève, il y en a peut-être des dizaines et des dizaines, pas juste ici au Québec, mais un petit peu partout. Donc, c'est un petit peu comme une pelote de laine. Là, on commence à tirer sur le fil, puis finalement, on se rend compte que il y a toute une réalité derrière. Donc, il y a peut-être, en effet, plein d'autres histoires comme celle de Marie-Ève. C'est assez fascinant quand même.
Absolument, oui, c'est ça. Mais puis de plus en plus, puis au début, c'était moi qui approchais les familles un peu naïvement, oui. Puis je leur écrivais sur Facebook, puis bon. Et là, de plus en plus, juste il y a un mois, c'était le frère de la petite Diane Carrier là, qui a disparu à Québec dans les années 60. Puis moi, je suis rendue marraine pour Enfants Retour, là, l'organisme
oui.
Enfants Retour. Donc, c'est vraiment ça qui me passionne. Puis je fais du bénévolat chaque semaine pour un organisme de disparition qui s'appelle le Doe Network. Donc, c'est ça que... C'est ça. Comme ça a commencé, j'étais youtubeuse qui faisait des vidéos, mais là,
c'est fou.
C'est rendu comme moi la personne ressource presque. Ouais,
voilà. C'est ça. Alors, c'est ça, ouais. Le Doe Network. Bon, il faut dire comment ça s'écrit. C'est D-O-E parce que on le sait qu'aux États-Unis, c'est quand il y a une victime qui est non identifiée, on l'appelle Jane Doe. Donc, j'imagine mm-hmm. que c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Donc, quel genre de travail que vous faites avec eux en bénévolat? Vous les aider à raconter justement un narratif autour des histoires? Comment vous intervenez?
Non, ben en fait, c'est super différent de mon travail sur YouTube.
Oui.
Parce que j'ai justement j'avais l'impression en faisant des vidéos, je dis là, il faut que je fasse quelque chose de plus parce que je veux pas sentir que je profite des
participations.
Ouais.
Oui.
Je voulais redonner. Donc, ce que je fais, c'est qu'avec. Il y a beaucoup. Je pense qu'il y a quelque chose comme 3000 corps non identifiés aux États-Unis seulement. Là. Donc, c'est des corps qu'on retrouve qui n'ont pas d'identité, justement. Et au Québec, juste au Québec, on en a. Ces corps-là, on peut les associer à des personnes disparues. Par exemple, telle personne retrouvée aux États-Unis pourrait très bien être telle personne disparue au Québec. Il faut seulement faire le match. Mais les policiers qui sont débordés n'ont pas vraiment le temps de faire ce type de match. Ouais. Donc, moi, c'est ce que je fais. Je crée des profils pour les personnes disparues. Donc, chaque fois qu'il y a une disparition au Québec, je peux créer un profil pour la personne disparue. Donc, je tiens ça à jour tous les semaines. Ouais. Et les personnes retrouvées. Donc, c'est comme une grosse banque de données et on essaie de faire les matchs. C'est un organisme qui existe depuis 20 ans. Puis, l'organisme a pu faire des matchs pour 100 John Doe, en fait. Ils ont donné l'identité à 100 John Doe dans le monde.
Je disais tout à l'heure Jane Doe, mais c'est Jane Doe, John Doe, là, c'est pour au masculin. Donc, mettons qu'au Québec, il y a quelqu'un qui disparaît, 55 ans, un homme blanc, il lui manque les deux dents d'en avant, peu importe. Mais là, si on retrouve quelqu'un aux États-Unis, un homme 50 ans, blanc, il manque deux dents d'en avant, ben il y a des chances que ce soit celui qui a disparu au Québec. C'est aussi simple que ça, des fois?
Oui, c'est ça. Mais on a tellement rarement des informations aussi concrètes. Parfois, c'est juste un pied qu'on va retrouver. Mais voilà, c'est ça. Puis ça demande beaucoup d'organisation. Il faut savoir parler anglais. Bon, fait qu'on est comme une vingtaine de bénévoles dans le monde. Là, moi, je m'occupe de l'Est du Canada. Mais ouais.
Passionnant, passionnant. Ouais. Ben, écoutez, Victoria Charlton, j'encourage tout le monde donc à se procurer votre livre, garder l'œil ouvert, aller faire un tour aussi sur votre chaîne YouTube. J'avoue que c'est toujours impressionnant de voir quelqu'un d'aussi jeune qui est aussi passionné par un sujet aussi morbide, mais vraiment, vous êtes une excellente raconteuse. Ça a été un plaisir de vous parler, Victoria.
Pareillement. Merci beaucoup. Bonne journée.
Merci. Bon, ben c'est sur cette note un petit peu morbide avec un pied retrouvé dont on ne sait pas qui en est le propriétaire. C'est comme ça que ça va se terminer l'émission aujourd'hui. Je veux remercier Joanie Henry à la mise en onde et à la réalisation. Merci aussi à William Boivin à la recherche. J'espère que ça vous fera pas trop faire de cauchemar ce pied sans propriétaire. On se retrouve demain.
Cube Radio.